avec unjourunvin.com, le site de vente privée de vin et champagne au meilleur prix.
Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ce numéro 874 d'Invino depuis la création de l'émission en 2004. Comme vous le savez, nous sommes en public et délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris, au 31 place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Invino Sud Radio dans la capitale sur 99.9 et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook Invino. Aujourd'hui, un menu qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable avec la promotion des petits vignerons. On en parlera, c'est un sujet intéressant. Le domaine de la Mordorée, les vignobles de Julinas. Évidemment, on sera dans le Beaujolais, puis un zoom sur le champagne Leclerc brillant. À mes côtés, elle est belle comme un cœur, Hélène Piau.
Bonjour.
Bonjour Hélène.
Merci toujours pour l'air belle comme un cœur.
Toujours à l'hôtesse de l'air.
Toujours.
Toujours. David Cobol et Philippe Orbach, nos stewards du vin.
Moi, mon capitaine. C'est lui le capitaine. Hein. Oh, il a les galons.
Allez, David Cobol, vous qui êtes sous-capitaine, on commence l'émission avec le Vino Quiz.
Alors, le Vino Quiz, je vous rappelle le principe, on vous pose une question. Une question sur le vin. Et le vainqueur va gagner un très très beau cadeau. Il s'agit de prochain numéro du magazine Planète Vin et Spiritueux. C'est pas beau ça?
Oui. Magnifique.
Alors, la question de la semaine dernière fut: de quelle belle province vient le domaine Chirolette? Réponse A, la Gascogne, Cong. Réponse B, la Bretagne.
Cong?
Non, il n'y a pas de Cong en Bretagne. Tout le monde est intelligent. Oui. Réponse C, Rome antique.
Oui. Alors la réponse est, David?
Et bien sûr, la Gascogne.
La Gascogne, c'était cette semaine. Il y a une autre question, David Cobol.
Une nouvelle question. Alors la question est, écoutez bien, quel type de viticulture pratique la maison de champagne Leclerc-Brion? Option A, la viticulture traditionnelle dans les vignes. Réponse B, la viticulture biologique et biodynamique. Et réponse C, la viticulture aérienne, c'est-à-dire que tout est fait à partir d'un hélico.
Oui, ou sur Mars.
Ouais.
Merci David. Et donc comment on fait pour jouer d'ailleurs?
On gagne toujours, si vous êtes tiré au sort, si vous répondez bien à la question, un exemplaire du magazine Planète Vin et Spiritueux en vous rendant sur le site invinoradio.fm, rubrique Vino Quiz.
Merci beaucoup David. Invino Sud Radio accueille une femme charmante, Ambre Delhomme, responsable communication au domaine de la Mordorée. Bonjour Ambre.
Bonjour.
Alors racontez-nous, bonjour. C'était l'affaire familiale tout ça?
Oui, alors c'est vrai que c'est un domaine viticole qui a été créé en 1986 par mon grand-père et mon papa.
D'accord.
Aujourd'hui, donc c'est la gérance, et on gère le domaine, donc ma mère et moi, suite malheureusement au décès de mon père en 2015. Donc l'idée c'est de préserver tout ce qu'il a mis en place, un domaine 100% bio, toute la vendange est faite à la main. On a plusieurs appellations, on a un terroir très atypique.
Il y a beaucoup d'hectares, il y a beaucoup d'hectares en bois.
Oui, on a 58 hectares répartis sur 38 parcelles sur 8 communes.
Eh bien, Hélène, donc ça vous inspire tout ça, hein?
Oui, alors il faudrait peut-être préciser que le tout est basé à Tavel quand même. Hein, ce qui n'a pas été précisé. Voilà,
la base, c'est Tavel.
Bonjour, Ambre. Alors effectivement, on est très heureux de vous retrouver parce que nos auditeurs les plus attentifs se souviennent certainement de votre passage dans l'émission en mai 2018. On vous avait promis de reprendre des nouvelles. Eh bien, comment allez-vous?
C'est très gentil, ben, ça va bien. On a terminé les vendanges le 1er octobre. On est content d'avoir fini et que toute la récolte soit en cave. C'est déjà une bonne chose.
Alors, parlez-nous de Dame Rousse, de Dame Voyageuse.
Alors, des noms de nos cuvées, oui. Alors, en fait, mon grand-père est un passionné de chasse et il est toujours. La bécasse est un oiseau très reconnu dans le monde de la chasse. Et donc, tous les noms poétiques de la bécasse ont été utilisés tant pour définir le domaine. Donc, la Mordorée, c'est un nom poétique de la bécasse et aussi sa couleur. Et puis, on a structuré la gamme de nos vins avec cette fameuse Dame Rousse et notre Reine des Bois, la Reine des Bois, la cuvée haut de gamme, cuvée historique.
Voilà. On a donc également parmi vos cuvées la Dame Voyageuse, toujours oui, la bécasse. La Remise, la Remise, c'est aussi un surnom de bécasse.
Alors, c'est là où
c'est niche. C'est une promo, la promo sur la bécasse, c'est la Remise.
C'est là où niche la bécasse. La Remise de la Mordorée, ça s'appelle.
D'accord.
Voilà.
Et puis, la plume du peintre lors de millésimes, oui, exceptionnels. Est-ce qu'en 2019, on aura une plume du peintre, à votre avis?
Eh bien, on peut parler. Peut-être on va pouvoir en refaire une sur Châteauneuf. Donc, on est assez excités et on est très, très contents. Parce que c'est vrai que la première avait existé en Châteauneuf en 2003, puis 2005. Et puis ensuite, il n'y en a pas une de nouveau. Il y en a eu en Irak, l'Irak rouge, 2012, puis 2016, et exceptionnellement un Irak blanc sur 2017 en plume du peintre. Et depuis, on n'en a pas refait sur Châteauneuf. Et là, la production sur Châteauneuf cette année était très, très belle, de très belles grappes. Sanitairement parlant, c'était parfait. Et donc, voilà, on est en train de voir avec des œnologues et notre équipe ce qui est possible. Mais voilà, on en a déjà un petit peu parlé, donc... On est en train de préparer les choses.
Et alors, in fine, qui est-ce qui décide ? C'est votre maman, Madeleine, ou c'est vous ou...
On décide ensemble, on décide en équipe, on essaie de faire le maximum d'arbitrage tous ensemble pour essayer de faire les meilleurs choix possibles, parce qu'on est tous pris par notre quotidien aussi, chacun dans son secteur, donc pour que chacun puisse y mettre un petit peu sa patte. Et l'idée, c'est de toute façon de travailler main dans la main, donc évidemment avec ma mère, mais avec le caviste et notre directeur, qui sont des éléments très importants
Ambre, autre élément important avec vos belles bouteilles là, c'est le bouchage, parce que c'est important. On a parfois été déçu avec des vins qui étaient un peu bizarroïdes, qui avaient des drôles de goûts. Vous travaillez avec qui alors?
Alors aujourd'hui, on travaille avec la maison Trescaz, donc pour les bouchons en Liège, et puis Diam. Voilà, donc on a démarré Diam, ça fait quelques années, pas très très longtemps, suite surtout à des demandes de nos clients importateurs, qui avaient cette demande-là en particulier pour être sûr de pas avoir de problème de bouchons.
C'est une garantie, quoi.
Malgré le fait qu'on investisse dans des bouchons en liège quand même haut de gamme, ben c'est vrai que le liège, c'est naturel et ça a un effet qui peut bouger un peu plus. Donc voilà, on essaie de jongler entre les deux et entre de satisfaire notre clientèle.
Hélène, alors le coup de cœur, la bonne idée, la bonne adresse, le bon plan là, de ce samedi 9 novembre.
Alors moi, j'ai eu un méga coup de cœur pour la Dame Voyageuse 2016, bio, mais comme tous les vins du domaine, essentiellement à base de grenache, un petit peu de mourvèdre, de syrah, de counoise, de vaccarès, cépage qu'on rencontre pas souvent parmi les vins, donc voilà, pour le petit côté exotique. À l'ouverture, c'était très très bécasse, effectivement, hein. Très chasse, très animal, très cuir. On était vraiment dans le retour de chasse.
Ça zigzaguait sur la langue.
Un petit peu. Et ça s'envolait aussi. Et puis après, la cerise noire est apparue. En bouche, on était très suave. Alors là, on était plus sur la bécasse et sur l'animal sauvage. On était vraiment là sur le velouté des ailes des bécasses, et avec des tanins étonnamment fondus, une impression presque de jus de fruits, et sur un fondant au chocolat ultra noir, ça marchait à merveille.
Voilà. Le prix, Hélène, pour terminer?
Le prix Ambre, pour terminer.
Alors, prix public, on est à 30,90€.
30,90€. Merci beaucoup, Ambre. Merci également, Hélène. Vous voulez dire quelque chose?
Oui, que si on veut retrouver Ambre, on peut la retrouver, enfin, elle, et puis les vins de la Mordorée, surtout, un petit peu partout dans les semaines qui viennent. Du 15 au 18 novembre, au Salon des Vignerons Indépendants à Lille. Du 28 novembre au 1er décembre, au Salon des Vignerons Indépendants de la Porte de Versailles. Du 24 au 26 janvier 2020, on prend un peu d'avance à Rennes. Et du 27 au 29 janvier, Millésime Bio à Montpellier.
Merci beaucoup, Hélène. Merci également. Merci beaucoup, Ambre. InVino sur Radio retrouve notre Philippe Orbacadou, meilleur sommelier du monde, qui a décidé de remonter un peu vers le nord, une petite pause dans le Beaujolais, à la découverte d'un cru exceptionnel. Lequel, Philippe ?
Le Juliennas.
Ah, Juliennas.
Oui, qui doit son nom vraisemblablement à l'époque où les troupes romaines étaient installées dans le coin. Il y a encore quelques oppidums du côté de l'Irak et l'Audin, un peu loin du domaine de la Mordorée, mais il y en a aussi dans la partie sud, effectivement, de la Bourgogne, dans le secteur du Beaujolais, au nord de Lyon. Et c'est Julier, qui est le nom d'une commune, qui a donné le nom à Juliennas, et Julier viendrait sûrement de Jules, en hommage à Jules César.
Oh là là !
Alors on est situé dans la partie nord du département du Rhône, à la limite avec le département de la Saône-et-Loire, sur une frontière, on parlait du royaume du Gamay et du royaume du Chardonnay, puisqu'on est entre Beaujolais et Mâconnais dans cet endroit-là. D'ailleurs, en 1742, ils avaient planté un certain nombre de bornes, 42 bornes, pour délimiter les deux royaumes. Mais finalement, les gens du coin, ne voulant pas du tout de ce bornage, ont fait disparaître les bornes. Et quelques années après, il ne restait plus une seule borne. Déjà à cette époque-là, ils se révoltaient contre
l'autorité. Il y avait déjà des gilets jaunes en 1700.
L'autorité en place.
Passer les bornes, il n'y a plus de limite.
Exactement. Alors, on est juste coincé entre deux autres appellations beaujolaises, qui sont le Chenin, juste au sud, et Saint-Amour, juste au nord, avec des profils de vins très différents. Ce qui caractérise Juliennas, c'est d'abord une surface d'environ 600 hectares, légèrement moins, 70 producteurs, une altitude moyenne qui se situe autour de 430-450 mètres d'altitude, ce qui en fait
c'est
déjà...
C'est bien ça, Philippe, pour le vin ou pas ?
Oui, c'est bien, parce que ça donne automatiquement des nuits, notamment un peu plus fraîches, dès qu'on monte en altitude, et du coup, on a une petite réserve d'acidité naturelle qui n'est pas inintéressante, notamment sur la garde et sur cette dimension de fraîcheur qu'on aimerait retrouver dans les gamets. Le cépage, c'est le gamay, le fameux gamay noir à jus blanc. Parce qu'il y a aussi du gamay teinturier qu'on appelle le gamay de Bouze, dont on trouve encore quelques traces.
C'est
dans,
pas très sexy.
Dans la Loire.
J'aimerais bien un verre
je
de Bouze.
Sais bien,
si
oui,
voulez,
c'est,
voilà,
pas,
c'est pas top.
Mais oui, mais ça peut être très bon.
Non,
ça
mais
peut être
je
bon.
Dis pas le contraire.
Henri
Marionnet est un peu malheureux.
Henri Marionnet est un bon exemple de vigneron qui s'en sort très bien avec ce gamay à jus teinturier qui est normalement pas préconisé pour faire les grands vins, mais qui donne de bons résultats à certains endroits lorsqu'ils sont bien travaillés et vinifiés. Là, c'est le gamay traditionnel. Il y a à la fois, pour l'essentiel, des terroirs de type granitique, comme souvent dans le Beaujolais, mais on a également toute une partie de zones plutôt argileuses sur Gilinéa, qui permet d'avoir un peu deux profils de vins complémentaires. Sur le granit, on a plutôt une résonance classique, d'un vin fruité, sentant la groseille, le fruit rouge, et un côté plutôt désaltérant, autant que faire se peut, parce que dans les millésimes récents, c'est allé un peu moins parce que c'est un peu chaleureux. Et puis sur les argiles, on a des vins un peu plus profonds, un peu plus denses, qui peuvent être amenés à vieillir aussi d'une façon pertinente pendant un certain nombre d'années. Et c'est vrai qu'on a toujours l'image du Beaujolais qu'on boit rapidement, le troisième jeudi du mois de novembre, d'ailleurs, dans quelques jours, puisque
exactement.
C'est le 21 novembre cette année que...
Vous l'avez goûté, Philippe, ou pas encore?
Non, pas encore.
En avant-première mondiale.
Pas tout à
la
fait.
Banane. Mais, est-ce qu'il y a la banane?
Non, mais ça, c'est encore des histoires de légende. Bon, heureusement, ça sent le fruit.
Des histoires
d'une
levure particulière.
Oui, mais c'est moins le cas aujourd'hui.
Ah oui, c'est fini. Oui.
Parce que, effectivement, le public a réagi aussi. C'est bien que les consommateurs se disent stop à tout ça.
Quelques vignerons, peut-être ?
Alors, rapidement, quand même, pour le 21 novembre, cette année, les vignerons du Beaujolais se sont dit que ça serait super intéressant de faire, ce jour-là, non pas la fête du Beaujolais nouveau, mais une sorte de happy day convivial autour du vin et de la gastronomie.
Oui.
Et donc, c'est la raison pour laquelle ils veulent lancer cette initiative dans le monde entier de faire un happy day au vin et
ça, c'est le nom,
au vin
le nom.
Nouveau, oui. Effectivement,
très
pour
bien,
ce
ça.
21 novembre. Alors, quelques vignerons intéressants à ne pas louper. Le domaine de Chavannes, le travail fait par Guy Sablon également, Georges Trichard, qui est une des grandes figures de l'appellation, le domaine David Beaupère, Bernard Santé, dont la famille a donné aussi la naissance, non seulement à Santé entre nous, mais aussi à un grand sommelier, Michel Santé, et puis encore Jean Baronat.
Et avec toujours un excellent rapport qualité prix, Philippe. Hein,
oui, c'est un peu c'est la caractéristique cher, bon. Des vins du Beaujolais en général, et j'allais dire des crus en particulier, parce que franchement, on a des très jolis vins qui peuvent être des vins de garde, autour d'eux, entre 10 et 15 euros.
Merci beaucoup, Philippe. Merci à tous. On se retrouve dans un instant au bar à vin du caviste Nicolas à Paris, place de la Madeleine, avec Frédéric Zemmet, l'heureux directeur général du champagne Leclerc Brillant.
Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Retour chez le caviste Nicolas à Paris pour cette émission en public et délocalisée avec un nouvel invité, Frédéric Zemmet. Bonjour Frédéric.
Bonjour.
Alors vous êtes directeur général du champagne Leclerc Brillant, mais avant d'en arriver là, vous êtes passé par Neoma Business School et vous avez même vécu pendant 4 ans en Allemagne, racontez-nous.
Ah mais vous êtes extrêmement bien renseigné, effectivement je suis champenois d'origine, comme je dis souvent je suis né dans un Jéroboam et j'ai quelque part dédié ma vie aux vins et spiritueux, après effectivement avoir fait ce qu'on appelle aujourd'hui Neoma mais qui à l'époque s'appelait Subdeco.
Et c'était Subdeco Reims.
Subdeco Reims, tout à fait, ouais. Subdeco Reims.
Voilà. 11 ans chez Mouette, 2 ans chez Pommerie et vous avez aussi travaillé avec Michel le Chapoutier.
Alors, je dirais près de 25 ans chez Mouette Annecy.
C'est énorme.
Voilà, c'est énorme. Alors, à la fois chez Mouette, chez Annecy, chez Mouette Annecy, en France et à l'étranger. Donc, j'ai fait, on va dire, un très, très beau parcours ou très long parcours chez Mouette et
dans Annecy. Le groupe, quoi. Alors, vous avez rejoint votre nirvana professionnel. On en parle aujourd'hui à bord de Invino Studio Radio. Le champagne Leclerc Brillant en 2013. Alors, un mot sur l'historique. Ça débute à Cumières en 1872 et après, ça émigre vers Épernay.
C'est ça. La maison Leclerc, tout court à l'époque, est née à Cumières en 1872. Et puis, le champagne Leclerc a été géré par la famille Leclerc pendant 5 générations. De 1872 à 2012. Donc, on a une première période de 140 ans en définitive.
140 ans.
Voilà.
Chez moi.
Ah, exactement. De Leclerc. Que retenir de cette première période de 140 ans? Surtout, la quatrième génération, Bertrand Leclerc, qui lui a fait 3 choses. Il s'est marié. Le brave, dans les années 50, et il a épousé une demoiselle Brillant. Donc Leclerc est devenu
Leclerc Brillant, d'accord.
Et je l'en remercie tous les jours. je préfère vendre Leclerc Brillant que Leclerc tout court. Ensuite, il a fait autre chose. Il a déménagé sa petite maison de Cumières, avec le succès commercial. C'est avéré trop petite. Il a déménagé, il s'est installé à Épernay, dans les bâtiments que nous utilisons encore.
Et aujourd'hui, combien de bouteilles vous commercialisez?
Aujourd'hui, 120-130 000 bouteilles par an.
120-130 000 bouteilles. Et alors, les propriétaires, à qui appartient aujourd'hui cette maison?
Eh bien, cette maison appartient à un couple d'Américains auquel je me suis associé en 2013 pour acheter cette affaire.
Donc, ça reste une affaire familiale.
C'est une affaire familiale.
C'est une continuité. Alors, cette maison, Le Clair-Briand, vous avez été pionnier en bien des domaines, notamment tout ce qui est bio. Et durable,
oui.
C'est un peu dans la génétique de la marque.
C'est tout à fait dans l'ADN de la marque. C'est Bertrand Leclerc qui à l'époque, avant qu'on ne parle véritablement du bio, les Benjamins, il n'y avait pas de certification, il n'y avait rien à l'époque. Lui, se retrouvait malade à chaque fois qu'il allait traiter ses vignes. Et il a décidé de revenir à ce que son père faisait avant lui, à savoir une viticulture extrêmement douce et naturelle. Et il a banni tout ce qui est produit de pétrochimie pour traiter son vignoble. Donc il a été effectivement l'un des précurseurs de la bio, puis ensuite de la biodynamie en Champagne.
Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas votre maison de Champagne, hein, c'est Noël arrive bientôt, dans la gamme, qu'est-ce qu'on peut trouver? Et surtout, comment est-ce qu'on peut définir le style de Clair-Briand?
C'est un style très particulier, très peu de sucre. De 0 à 4 grammes.
Hein, ça donne des champagnes qui sont plus... comment? Par rapport au goût du consommateur, comment on peut le définir?
Je dirais champagne tendu et précis.
D'accord.
Voilà, tendu et précis, absence de sucre qui fait que les choses sont extrêmement précises. Et puis, on compense quelque part cette rectitude due à l'absence de sucre par... un élevage extrêmement long après vendange.
Donc, c'est un choix votre chef de cave, de la philosophie de la maison.
C'est un choix.
Vous avez décidé
assumé.
D'être comme ça, quoi.
Voilà, un choix parfaitement assumé. On a décidé de faire des choses que les autres ne font pas.
Ouais.
Ou pour exister, on veut exister différemment. Voilà.
Alors, le vignoble, vous avez des vignes en propre et vous avez également des accords avec d'autres viticulteurs.
Oui, quand on a racheté l'affaire, on n'avait rien. Zéro vigne.
Zéro vigne,
zéro
ah,
vigne
oui.
Hein, 30 hectares de vigne. Aujourd'hui, nous avons 13 hectares de vignes en propre. Sur les différentes parties de la Champagne. Et puis, nous complétons ces 13 hectares de vignes en propre par, effectivement, une quinzaine d'hectares d'approvisionnement que nous avons cherché chez des amis qui sont, bien sûr, bio comme nous.
Comme vous, quoi. 150 000 bouteilles aujourd'hui, à peu près. Vous voulez grandir, continuer à...
Oui, on a une ambition.
C'est combien, c'est
une ambition affichée à 200 000 bouteilles.
200 000 bouteilles, là, vous serez bien, quoi.
Ouais, et nous serons heureux.
Et vous êtes déjà heureux, non?
On est déjà heureux, mais on le sera encore plus.
Bon, alors, on dit souvent que votre champagne est un champagne de gastronomie, ce qui n'est pas toujours le cas dans l'esprit des gens.
Moi, je veux sortir du corner du champagne festif qu'on ouvre que parce qu'il y a un mariage, une communion ou un permis de conduire à fêter.
Voilà. Ou une belle-mère qui s'en va.
Exactement. Oui. Et donc, le champagne, nous estimons que c'est un vin. Avant d'être un vin avec des bulles, avant d'être du champagne, c'est un vin. Et donc, on l'associe effectivement très bien à la gastronomie. Et on essaye d'en promouvoir la consommation tout au long d'un repas.
La distribution, vous en êtes en France, peut-être que le marché des Amériques, grâce à vos actionnaires, s'ouvre également?
Oui, il nous laisse une paire royale là-dessus. N'empêche que, effectivement, les États-Unis, c'est le premier marché export, mais du fait de nos efforts et non pas de l'entremise de nos actionnaires américains.
Et en plus, Donald Trump vous épargne, donc vous êtes un garçon heureux
Donald
deux fois.
Trump
alors.
Nous épargne, comme nos amis du cognac, nous sommes épargnés par la grâce de Dieu, on va dire. Donc c'est parfait. Donc sinon, la France, un tiers du volume. Et puis l'export, deux tiers du volume.
Et sur la France, c'est plutôt ce qu'on appelle café, hôtel, restaurant. Pas de grande distribution.
Non.
On ne voit pas chez Monsieur Leclerc vient.
Non, on est à la grande épicerie, on est au repère de Bacchus, on est sur les belles tables étoilées Michelin. Voilà.
D'accord. Alors qu'est-ce qu'on peut dire pour terminer ce millésime 2019? D'abord, est-ce qu'on peut dire quelque chose encore aujourd'hui ou c'est trop tôt?
On peut le dire. Moi, je vais prendre un pari. Je dis que 2019 sera meilleur que 2018.
2019 sera meilleur que 2018. Affaire à suivre. Merci beaucoup, Frédéric. Invino Sud Radio retrouve maintenant David Cobold, le cofondateur de l'Académie des vins et spiritueux, pour nous parler de la promotion des vignerons de qualité, mais avec une taille économique faible.
Oui, c'est un vrai problème pour un vigneron qui doit tout faire, parce qu'il doit gérer son domaine, aussi bien à la vigne qu'au chai, la comptabilité, le personnel s'il en a, les factures, enfin tout l'aspect gestion. Mais en plus, il faut vendre, il faut faire la promotion pour se faire connaître quand on démarre. Donc, tout ça, ça occupe. Et la partie promotionnelle coûte de l'argent, il ne faut pas le négliger. Si vous voulez une présence sur un salon, il faut payer le stand, il faut être présent, il faut des échantillons, etc. Vous voulez des contacts avec la presse, ça coûte de l'argent, il faut un attaché de presse. Et présence sur un salon, pourquoi présence sur un salon? Pour se faire connaître, pour que les importateurs, distributeurs, etc. vous connaissent et éventuellement que vous trouvez un réseau de vente à travers ces filiales. Donc comment faire? Je trouve qu'il y a quelques exemples qui montrent qu'on peut, ensemble, en jouant en équipe, on est plus fort que tout seul et on partage des coûts en plus. Alors l'important, c'est d'avoir une philosophie commune et en plus ne pas trop se marcher sur les pieds. Alors, il y a des exemples contraires, c'est-à-dire que on peut prendre l'exemple de l'Union des Grands Crus de Bordeaux, qui est un exemple très différent. Il y a 134 membres, ils sont tous du bordelais. Et pourquoi ça ne marche pas sur les pieds? Parce que le système bordelais est assez spécifique. Le vin se vend par les négociants. Donc, la relation client final ou importateur, distributeur et producteur n'existe pas, a priori, sauf par l'action d'organismes comme ça qui organisent des dégustations, des salons dans le monde entier. Donc ça, c'est un premier exemple. Mais ce n'est pas ce à quoi je pensais particulièrement. Je trouve qu'il y a un excellent exemple ici en France d'un groupement de vignerons de toutes les régions qui s'appelle Vignobles et Signatures. Elle a été fondée en 1984 lors d'un salon Vinexpo à Bordeaux. Avec la volonté de faire cause commune lors de ces salons et de partager les coûts de stand.
Ils sont combien, David, vous dites?
Alors aujourd'hui, ils sont 17. Ils ont été entre 10 et 20 à différentes époques. Et sur les 17, il y a 8 membres qui sont là depuis le début.
Ah,
et
ils sont 17 membres.
Et c'est même la deuxième génération qui sont présents. Le principe est assez simple à comprendre et très logique. C'est-à-dire qu'ils doivent d'abord être familial. Ils doivent d'abord avoir un domaine. Ils peuvent avoir une activité de négoce à côté, mais ils ne doivent pas être purs négociants. Ils doivent avoir un esprit de partage et de je dirais, sympathique, c'est-à-dire de partager à la fois des informations et un esprit commun de qualité. Les vins sont de qualité. Et ensuite, pour éviter de se marcher sur les pieds, il y a un vigneron par grande région. Il n'y en a pas deux. Par exemple, en Alsace, c'est Paul Blanc. Dans le Beaujolais, Dominique Piron, sa société. Donc, chaque fois, une région est représentée. Ce qui a pour avantage d'avoir une panoplie complète
bien
présentée
sûr.
De vins de différentes régions.
Et avec des vignerons de qualité tous.
Avec toujours la même optique de qualité, le même aspect familial, domaine bien géré, etc. Et des vins de qualité. Alors, moi, je trouve que c'est vraiment un exemple à suivre. Ils ne sont pas dans l'obligation de partager les mêmes distributeurs. Chacun est libre de trouver les distributeurs. Mais ils doivent avoir une même vision du réseau de distribution. C'est-à-dire pas être axé uniquement sur la grande distribution, avoir plutôt la volonté d'être dans des beaux restaurants, les bars à vin, etc. Et les caves spécialisées.
Ils font tous de la vente directe, je suppose, David.
Alors, ils peuvent faire de la vente directe ou pas. Ils n'ont pas encore un site, mais il est question de le fonder, d'avoir un site de vente directe partagé, ce qui est aussi une bonne idée, parce que la vente sur Internet se développe. Pourquoi pas le faire? Les vignerons indépendants l'ont bien fait aussi. Et puis après d'organiser des dégustations de presse, des voyages presse et le partage des salons. Ils sont présents dans tous les grands salons comme Vinexpo, comme Provine, etc. Donc je trouve que c'est vraiment une clé de réussite, c'est de marcher ensemble, mais de marcher avec la même vision, quelque part. Une vision partagée et des régions différentes.
David, que la France du vin, il y a plein de petits vignerons.
Il y a plein de petits.
Et c'est quoi, c'est 90% vignerons. Peut-être
hein. Peut-être, mais au 80%. Après, petit n'est pas synonyme nécessairement de bon. Ce qui est important, c'est d'avoir la même exigence de qualité, je
bien
pense.
Sûr.
Si on partage des choses, il faut que l'offre soit cohérente du point de vue de l'acheteur.
Qu'est-ce que vous en pensez, Hélène, Philippe?
Moi, c'est un club que j'aime beaucoup, effectivement, parce que je pense aussi à la famille Couli dans la Loire. Enfin, il y a plein.
Couli, c'était un des fondateurs.
Voilà.
Un des huit.
Oui, alors il y avait Couli, il y avait Jeanne Wex, et il y avait, je ne sais plus qui était l'autre fondateur. Mais,
enfin, en tout cas, c'est que des bonnes références, effectivement, des valeurs sûres. Et puis, effectivement, c'est une façon très intelligente de se regrouper pour se faire connaître.
Alors, exactement.
La question qu'un producteur peut se poser, c'est combien ça coûte. Là j'ai interrogé récemment l'association sur le coût. Le prix minimum pour rentrer dans ce club, il faut être coopté d'abord.
Déjà.
4 000 euros par an.
Bon.
Mais ça grimpe évidemment selon les événements auxquels on participe. Donc ça peut aller jusqu'à 15 voire 20 000 si on
au
fait
total,
Provine
dites, hein.
Au total, si on fait Salon Vinexpo, Salon Provine, une journée de presse, des voyages de presse et tout.
Mais
tout
c'est beaucoup, mais franchement, quand on voit l'énergie à déployer pour...
C'est assez bien géré, je trouve.
Oui et puis surtout, beaucoup de vignerons, hélas, dépensent des sommes similaires pour un résultat bien moindre.
Oui.
Donc
et là,
finalement, c'est pas tant que ça.
Et de presse et des opérations à l'étranger.
Et une attachée de presse extrêmement efficace.
Oui, tout à fait.
Tout le monde ne l'est pas.
Michel Piron-Soula.
Michel Piron-Soula, qui est effectivement l'une des pointures aussi de la profession. C'est important, une bonne attachée de presse.
Merci Hélène, Philippe et Frédéric. Frédéric Zemmet. Merci également à Charlotte qui a préparé cette émission, ainsi qu'à Sébastien pour la technique. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, invinoradio.fm ou notre page Facebook Invino. On se retrouve demain à 12h30 pour une nouvelle émission, toujours en public et délocalisée chez Nicolas, le caviste fondé en 1822. Nous recevrons Youri Lebeau, auteur de son dernier livre qui est excellent, In Clima Veritas. Nous irons également à Montpérou. Nous parlerons de beauté grecque. Et oui, et on recevra un chirurgien, écrivain, passionné, fan de vin, Marc Lagrange. D'ici là, excellent déjeuner. Restez fidèles à Sud Radio et surtout, n'oubliez jamais, respectez la plus grande des modérations.
Invino, avec unjourunvin.com, le site de vente privée de vin et champagne au meilleur prix.